profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est anthropologue, spécialiste des cultures indigènes d'Amazonie, professeur au Musée national de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et quand il n'est pas à Paris pour participer à un colloque sur la mutation climatique, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut le trouver en compagnie des Araouétés. Bonjour Eduardo Viveiros de Castro.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous préférez être sur le terrain en Amazonie ou transmettre les fruits de votre travail à vos étudiants?
Ces moments de ma vie, plutôt transmettre mon travail aux étudiants, parce que je suis déjà âgé, trop âgé pour aller sur le terrain et attraper encore une autre malaria et tout ça. Mais sinon, probablement sur le terrain. Oui, une autre, oui, mais comme tout le monde, c'est pas, mais comme tout anthropologue qui va en Amazonie, il est forcément exposé à ces genres de petites choses-là.
Comment vous définissez votre métier, anthropologue?
Alors bon, je suis anthropologue, c'est-à-dire que je m'intéresse à toutes sortes de phénomènes qui intéressent à toutes sortes d'humains. C'est-à-dire, je travaille sur la réalité à travers plusieurs façons, les multiples façons dont la réalité est pensée, agit, réfléchit, élaborée, imaginée par d'autres humains. Et même l'idée d'humain, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, est une question qui, pour moi, est ouverte dans la mesure où les différentes sociétés humaines ont des idées différentes sur ce que c'est qu'un être humain. Et en certain sens, un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'anthropologie des autres. C'est-à-dire, non pas simplement aux autres, comme ça. J'espère que tout le monde s'intéresse aux autres. On est censé s'intéresser à l'autre. Mais l'anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'anthropologie telle qu'elle est pensée, c'est-à-dire quelle est la théorie, la conception de l'humain que d'autres humains, d'autres sociétés, d'autres traditions culturelles elles-mêmes ont élaboré.
Et quelle relation l'anthropologue que vous êtes entretenait avec la philosophie, qui elle aussi s'interroge beaucoup sur l'être humain?
Ah oui, ça c'est une longue histoire, dans la mesure où j'ai été un peu... Bon, d'abord je suis marié à une philosophe, donc...
Donc d'abord une relation d'amour.
Voilà.
Enfin, en tout cas, conjugale.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, amoureuse aussi, bien sûr. Et donc, j'avais toujours intéressé à la philosophie pour des raisons personnelles. Enfin, bon. Mais petit à petit, j'ai été, surtout en France, hein, j'ai été, mon travail en France a toujours été comme attiré par, ou pour, par les philosophes et pour la philosophie. Et parce que mes interlocuteurs en France sont aussi bien des anthropologues que des philosophes. Et le livre, je crois que c'est le premier ou le seul livre que j'ai publié en France comme livre à part entière.
Métaphysique cannibale.
Métaphysique cannibale, c'est un livre qui a été publié dans la collection de philosophie, en fait, une collection
métaphysique,
de métaphysique.
Même, au PUF.
Oui, c'est un des premiers livres, le premier, ouais. Je vois, qui a été publié dans cette collection. Métaphysique au pluriel, c'est-à-dire, c'était justement l'idée qu'il y a d'autres métaphysiques entre le ciel et la terre que rêvent nos métaphysiques. Oui, et j'ai toujours pensé que l'anthropologie avait un rôle essentiel à jouer dans la philosophie occidentale, dans la mesure où elle était un outil de dépaysement absolument essentiel, parce que la philosophie, comme notre traduction, est une philosophie très très tournée vers elle-même, c'est-à-dire vers sa propre traduction, même surtout de voir tourner vers le philosophe lui-même. Mm-hmm. C'est-à-dire l'introspection, c'est quand même une méthode classique de la philosophie, tandis que l'anthropologie, c'est exactement le contraire. L'introspection, c'est l'extrospection, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur.
On va passer 50 minutes ensemble, Eduardo Viveiros de Castro. On va essayer de remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie et l'anthropologie, découvrir vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique. On va aussi... tenter de pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts, ou peut-être aller sur le terrain avec vous, et puis réfléchir au rôle politique de l'intellectuel que vous êtes. Avant cela, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, parce que si on essaie de suivre l'itinéraire de votre pensée, il faut qu'on remonte au début. Vous avez dit, je m'intéresse à la philosophie, bon, pour des raisons personnelles, et puis vous avez donné une définition. Est-ce que je peux vous demander quelles sont ces raisons personnelles qui vous font vous intéresser à la philosophie? Est-ce qu'il y a eu une rencontre un jour?
Je crois que j'ai pensé en certain temps d'abord à devenir mathématicien quand j'étais adolescent. J'avais un collègue de classe de promotion qui était énormément plus compétent en mathématiques que moi. Genre, j'ai vite abandonné l'idée d'être mathématicien. Et ensuite, je lisais toujours des livres de philo, plutôt des livres plutôt populaires. J'avais 15 ans, 16 ans, comme ça.
Vous lisez quoi?
Je ne me rappelle plus à cette époque-là, mais c'était des livres surtout de philosophie de la nature, ou sinon des livres de physiciens qui écrivaient sur, quelles étaient les implications philosophiques, par exemple, de la mécanique quantique, des choses comme ça. Je me rappelle d'un livre de Heisenberg, justement.
À 15 ans?
Oui, mais je comprenais la moitié, si tant que ça. Alors, Et je pense que j'ai toujours voulu faire de la philosophie, sauf que j'avais en même temps une certaine envie de sortir de ma ville, de mon pays, de la situation, de ma circonstance. Quand j'avais mes 18 ans, 20 ans, on était en pleine dictature militaire au Brésil, c'était les années de plomb au Brésil. Donc l'idée de sortir d'où j'étais était quelque chose qui me poussait, quoi. Donc, faire de la philo en restant philosophie universitaire, en restant dans une grande ville du Brésil, ne m'attirait pas du tout. En même temps, je suivais un cours de ma licence à l'université. Je faisais la licence en sciences sociales, sociologie et sciences politiques et anthropologie. Sauf que, à cette époque-là, c'était les années 70, début des années 70, dans le cours de sciences sociales, les Indiens n'existaient pas. C'est-à-dire, ils n'apparaissaient pas dans les cours. Parce que on ne parlait que de la classe ouvrière, de la bourgeoisie nationale, de la théorie de la dépendance, l'impérialisme, la révolution socialiste, toutes choses admirables, sauf que...
C'était très politique.
Très politisé, oui, parce que c'était en même temps, c'était le grand moment de la répression. Moi, j'étais dans l'université, c'est l'université catholique de Rio, qui servait un peu de refuge à l'époque pour les professeurs, pour les enseignants qui étaient persécutés dans l'université publique, qui avait été interdit d'enseigner dans l'université publique et qui avait été forcé de trouver un job ailleurs. Et l'université catholique à l'époque, c'était l'université des jésuites, pontificale, je crois que c'est dit. Et ce prof, il s'est réfugié, disons, à l'université catholique. Et donc, c'était des jeunes professeurs très politisés, très compétents, mais qui faisaient en fait de la politique au sens de... la politique possible à l'époque. Mmh. C'était au sein ou la lutte armée.
Et c'est dans ce contexte que vous avez entendu parler des Indiens?
Oui, mais d'une façon plutôt inattendue, parce qu'il y avait un cours de sociologie de la littérature, et c'était un professeur, il s'appelle Luis Costa Lima, c'était un professeur de théorie de la littérature. Il avait aussi été, quand il était jeune, le secrétaire de Paulo Freire, le célèbre éducateur brésilien qui est un des ennemis, qui est mort déjà, mais dont l'œuvre est un des ennemis principaux de ce gouvernement d'extrême droite aujourd'hui, maintenant au Brésil. Alors, Costa Lima, qui était professeur à l'université catholique, faisait un cours de sociologie de la littérature, mais en même temps, il écrivait sa thèse de doctorat, il était jeune à l'époque, sur le structuralisme et la théorie de la littérature. Et donc, il nous a fait lire Les mythologiques de Lévi-Strauss. Parce que, analyse de texte, analyse du discours, qu'est-ce que le structuralisme peut apporter à la littérature? C'était l'époque où le grand moment du structuralisme, la grande décennie du structuralisme, Jacobson, Barthes, Lévi-Strauss, c'était le grand moment, quoi. Et alors, on a lu le 4 volumes des mythologiques dans un cours de sciences sociales. Et c'est comme ça que, tout en sachant que les Indiens existaient, au sens empirique, au Brésil, il y avait des Indiens dans l'intérieur du Brésil, on n'en parlait pas dans les cours de sciences sociales, de sciences politiques, de sociologie et même d'anthropologie. J'en ai trouvé des Indiens dans ces cours-là que dans un cours de littérature.
D'accord, c'est par la fiction.
Par la fiction.
Par l'étude que vous avez
par
rencontré.
Par l'analyse des mythes. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Parce que je me suis rendu compte, tiens, ce sont les mêmes gens que je vois dans les pages colorées, illustrées de suppléments dominicaux, des journaux, mais qui ne sont là que comme des personnages folkloriques, qui racontent ces histoires fantastiques que Lévi-Strauss analyse.
Je suis devenu ethnologue ni par hasard ni par nécessité, mais en fait, disons, pour des raisons impures. Tout simplement parce que ça m'avait été d'être professeur de philosophie toute ma vie, parce que j'avais le goût des voyages, parce que j'avais un peu le goût de l'aventure, et qu'il se trouve que dans la conjoncture universitaire de cette époque, eh bien, l'agrégation de philosophie, c'était un terrain de recrutement pour ce qui allait devenir l'ethnologie et qui n'existait pas dans les universités françaises à cette époque comme une discipline de plein droit. Il n'y avait pas de chaire d'ethnologie.
Vous venez d'entendre la voix de Claude Lévi-Strauss. C'était une archive du 13 avril 1981, l'émission Radioscopie sur France Inter. Claude Lévi-Strauss, dont vous avez lu les ouvrages, hein, c'est ce que vous venez de nous raconter, Eduardo Viveros de Castro, notamment les mythologiques dans lesquels vous avez rencontré, en fait, pour la première fois, les Indiens au Brésil. Lévi-Strauss dit qu'il est devenu ethnologue un peu pour des raisons impures. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça?
Oui, Lévi-Strauss, je sais qu'il a toujours dit qu'il a suivi l'ethnologie pour fuir la philosophie. Et moi, c'est pas le cas. J'ai choisi l'ethnologie pour rencontrer la philosophie, ou plutôt une autre philosophie que celle qu'on enseignait à l'université. Alors, donc, c'est par Lévi-Strauss que j'ai découvert l'imagination indigène, disons. Les œuvres d'imagination, c'était les mythes des peuples indigènes. Et donc, à la fin de ma licence, j'ai été conseillé par ses profs de suivre un doctorat en anthropologie, parce qu'il y avait un programme très bon à Rio, au Musée National d'anthropologie. Alors, je suis parti faire le doctorat. Et là, je fais pour mon première année de cours, j'ai été invité par une enseignante au musée de visiter les Indiens du Haut-Xingu, passer une quinzaine de jours au Brésil central. Figurez-vous, je suis un carioca de Rio, classe moyenne, je n'avais jamais quitté la ville, peut-être j'allais à São Paulo une fois, et je connaissais rien en termes d'expérience personnelle du Brésil profond, de l'intérieur du Brésil, tout ça.
Et c'est le cas de la majorité des gens au Brésil?
Ah oui, c'est-à-dire surtout il y a quoi, 40 ans, 50 ans, les gens de la côte, le Brésil a toujours été, ses yeux tournés vers l'Atlantique plutôt que vers l'intérieur, vers l'Europe et vers l'Afrique aussi, plutôt que vers l'Amérique latine. Ça a changé, mais ça a pris du temps pour changer.
Donc vous les rencontrez à ce moment-là?
Oui, je l'ai rencontré les Indiens parce que j'ai fait une sorte de visite presque touristique pour connaître, et j'étais absolument fasciné en rencontrant des gens qui, en fait, m'ont raconté en personne les mêmes histoires que Lévi-Strauss avait analysées dans ses livres. La série mythologique, j'ai dit, tiens, mais ces gens existent encore, et racontent encore, et pensent encore de cette façon-là. Donc c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, j'ai absolument aimé l'environnement, la région, c'était le Brésil central, c'est la région de transition entre la savane du Brésil central et la forêt amazonienne. C'est un paysage absolument magnifique. Les Indiens étaient des gens d'une beauté magnifique et d'une gentillesse, d'une cordialité et tout. J'ai dit, bon, ça c'est parfait. C'est le lieu idéal pour comment fuir le Brésil sans faire une sorte d'anabasis, c'est-à-dire entrer plutôt que sortir. Parce que
vous fuyez le Brésil en vous enfouissant en son cœur.
Justement. Plusieurs de mes collègues ont été obligés de s'exiler, c'est-à-dire de partir du Brésil vers l'Europe, vers le Chili, vers, à l'époque, avant Pinochet, bien entendu, vers le Chili, vers l'Algérie. Ils ont parti, ma génération, la génération un peu plus âgée. Mais moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de partir vers l'intérieur.
Et quand vous rencontrez ces Indiens et que vous vous dites, vous venez de le dire, hein, c'est là que je veux rester, c'est cela que je veux étudier, c'est finalement leur mode de pensée qui vous intéresse, c'est déjà conceptuel en fait.
Oui, tout à fait. Pour moi, mon rapport avec l'anthropologie en général, avec la société indigène en général, c'est un rapport que j'ai pas honte de dire, c'est un rapport très intellectualiste, au sens que ce qui m'intéresse, c'est leur façon de penser. Évidemment, leur façon de penser n'est pas séparable de leur façon de vivre, de tout ça. Mais disons, c'est surtout leur puissance conceptuelle, des idées et de pratiques aussi, mais la puissance conceptuelle du mode de vie de société indigène qui m'a attiré, qui m'a fasciné. Et donc, j'ai immédiatement senti que cette mode de penser, cette façon de penser était une source de concepts qui pouvaient être mis au même niveau en termes d'interlocution et non pas de simple objet pour la philosophie. En fait, ce qui rend mon travail philosophique, entre guillemets, c'est que j'ai une tendance à traiter les idées que je trouve dans les cultures indigènes, non pas comme des objets d'une enquête scientifique du genre cognition ou détermination économique, sociale, etc., mais d'une façon philosophique, c'est-à-dire comme des interlocuteurs philosophiques, je sais pas, comme Leibniz ou Aristote ou n'importe quel philosophe, peut être un interlocuteur pour un philosophe contemporain.
Ou Gilles Deleuze.
Ou Gilles Deleuze, bien sûr.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela?
Deleuze tient une grande place dans votre travail, vous le citez hein, dans vos textes, Eduardo Viveiros de Castro. Quel est votre lien à lui?
Oui, Deleuze a été une influence fondamentale, surtout parce qu'il a été un peu comme une sorte de contrepoids à Lévi-Strauss. Dans la mesure où Lévi-Strauss c'est un anthropologue hyper rationaliste et qui a un rapport de, du moins c'était comme on le lisait, c'est-à-dire il avait une certaine conception de la raison qui était une raison essentiellement classificatrice, l'idée que la pensée sauvage était une pensée de l'ordre. Et moi, j'étais pas pour l'ordre.
La pensée sauvage
général. Est
une pensée de l'ordre pour Lévi-Strauss, c'est ce que vous dites.
Je pense que oui, que l'idée que la pensée sauvage c'est une grande entreprise d'organisation du monde, de mise en ordre du monde, et ce qu'elle est, mais qu'elle avait aussi un autre côté. C'est-à-dire la pensée sauvage, comme toute pensée d'ailleurs, comme toute tradition de pensée, il ne faut pas oublier que la pensée sauvage n'est pas la pensée des sauvages. Pour
c'est le titre d'un de ses livres, La pensée sauvage. C'est
oui.
Le titre d'un livre de Lévi-Strauss.
Oui, la pensée sauvage, ça veut dire la pensée en état sauvage. Ça veut dire la pensée qui n'a pas été domestiquée. Ça, c'est le mot même de Lévi-Strauss, des paroles de Lévi-Strauss. La pensée sauvage, la pensée qui n'a pas été domestiquée en vue d'un rendement. Donc, une pensée qui est libre, disons, des intérêts matériels immédiats. Et il arrive jusqu'à dire que l'endroit où la pensée sauvage a resté vivante chez nous, c'est l'art. Une sorte de réserve écologique, comme il dit, de la pensée sauvage chez nous. C'est le seul endroit où on peut penser comme un sauvage au sens de penser librement. C'est l'art. Mais c'est encerclé, c'est entouré de barrières pour que ça ne sorte pas de cette clôture-là. Alors, Deleuze, par contre, c'était quelqu'un que j'ai commencé à lire plus tard que Lévi-Strauss, quelques années plus tard que j'ai commencé à lire Lévi-Strauss, mais qui m'a fasciné par son audace et son style, en fait. Lévi-Strauss est un grand styliste de la langue française, mais Deleuze est un grand styliste de la pensée, je crois. C'est-à-dire, il pense d'une façon inouïe. Je n'avais jamais lu quelqu'un qui pense de cette façon-là.
C'est quoi cette façon?
Avec une liberté absolue et une capacité de faire le philosophe dire des choses que on ne trouvait pas chez eux, tout en étant là, au sens littéral. Il faisait le philosophe parler d'une façon, les philosophes anciens, les philosophes Spinoza, Leibniz, Nietzsche et tout, il faisait le philosophe parler d'une façon nouvelle. Et il me donnait le sens d'une grande liberté, de la possibilité de, surtout l'idée que on est autorisé à penser sans être obligé de passer par toutes les barrières, par la douane universitaire, philosophique et tout ça. Au contraire, il disait, allez-y, vous aussi pouvez penser. Et donc, dans ce sens-là, c'est un philosophe dans le vieil style, presque à la grecque, dans ce sens-là. Tout le monde est capable de faire ça.
Et vous les avez rencontrés, Lévi-Strauss et Deleuze?
Lévi-Strauss, oui. Deux ou trois fois, personnellement, moi, on sait qu'on a une correspondance. Lévi-Strauss a toujours été très généreux vis-à-vis de mon travail. En fait, c'était un homme incroyable, avec une capacité de travail absolument incroyable, parce qu'il lisait littéralement tout ce qu'on envoyait, de n'importe où. C'est-à-dire, c'est un étudiant de l'intérieur du Venezuela, il envoyait une thèse de doctorat sur un groupe indien. Il lisait la thèse, il écrivait à l'étudiant 2-3 pages très précises sur toute la thèse, hein, une semaine après. Et j'imagine qu'il faisait ça avec, je sais pas, comme il avait les temps pour le faire. Donc oui, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un avec qui j'ai établi même un rapport d'interlocution. Deleuze, non, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai connu que par ses livres. Voilà, c'était un peu l'idée que Lévi-Strauss et Deleuze, c'était de façon très différente de s'approcher de la pensée sauvage, mettons. Deleuze montrant que la pensée sauvage était aussi quelque chose d'autre que la passion de l'ordre, et qu'elle pouvait aussi se trouver en philosophie, et non pas simplement dans la société contemporaine, et non pas simplement dans l'art, etc.
Pour bien comprendre votre travail, il reste une autre voix à entendre. C'est celle, alors on va entendre la lecture d'un de ses poèmes, du poète, romancier, essayiste et dramaturge brésilien Oswald de Andrade.
J'humectais des cils secs pour le recoin bossu qui avait vu naître mon père. La pointe rouge de la gare d'Aradopolis était un ruban de cocotiers. Des fordes kilométrèrent des safrans de crépuscule, et la nuit goudronnée exauça des territoires brésiliques entre des plantations de café et des perroquets d'étoiles.
C'était une lecture du poème Nova Lombardia, hein, qu'on trouve dans son ouvrage Mémoire Sentimoto de Jeannot Miramar, publié en 1924. Oswald de Andrade est connu notamment pour son manifeste Anthropophage, publié en 1928. Ça va nous permettre de rentrer dans le dur de votre travail, parce que vous avez écrit sur le cannibalisme, et on va essayer de comprendre ce que signifie le cannibalisme pour lui. Manifeste anthropophage, comment est-ce qu'il faut le comprendre? On a l'impression que c'est presque une défense de l'anthropophagie.
En fait, Oswald, ça a été une influence fondamentale pour moi, parce que d'abord, je l'ai connu, je l'ai lu avant de me décider pour l'anthropologie. C'est-à-dire que je l'ai lu quand je finissais le lycée. Et pour moi, c'était, en écrivant aussi... révolutionnaire que, vous savez, le Brésil, c'est comme plusieurs pays d'ailleurs, qui sont en dehors du cercle métropolitain, le monde central de la pensée occidentale, Angleterre, France, Allemagne, Italie et tout ça. Dans ces autres pays, je pense en Amérique latine, je pense aux pays slaves, ce sont plutôt l'écrivain de fiction, le littérateur, le poète qui font œuvre de pensée. Ce sont eux qui, en fait, sont les philosophes. Dans ces sociétés-là. Borges est peut-être le philosophe, l'intellect le plus philosophique, l'esprit le plus philosophique d'Argentine, c'est Jorge Borges. Dostoïevski en Russie, c'est lui qui, enfin, il n'y avait pas Nietzsche sans Dostoïevski et tout ça. Et Oswald, c'est un peu comme ça. Je pense qu'Oswald, que Clarice Lispector, que Guimarães Rosa sont trois grands écrivains du XXe siècle brésilien, qui sont en fait le tête philosophique le plus important au Brésil, en certains sens. Ce sont eux qui, effectivement... Et Oswald, c'est quelqu'un qui a produit peut-être la première théorie décoloniale, pour utiliser un terme à la mode, la première théorie décoloniale consistante faite au Brésil. Peut-être même en Amérique latine, la plus originale, la contribution la plus originale à la philosophie, dit, c'est le mot c'est Augusto de Campos, un grand poète contemporain qui a dit de Oswald de Andrade, il dit, la théorie de l'anthropophagie, le manifeste anthropophage et tout ça, c'est la contribution la plus originale de la culture brésilienne à la philosophie. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Le manifeste anthropophage utilise d'une façon qui n'est ni métaphorique, ni littérale, le concept d'anthropophagie. C'est quelque chose, justement, que est... D'abord, Oswald a écrit dans les années 20, c'est-à-dire un moment où l'ethnologie des Indiens d'Amérique du Sud, d'Amazonie, était infiniment moins riche qu'aujourd'hui. Ensuite, il s'est basé surtout sur le premier chroniqueur, Tevez, Jean de Léry, André Tevez, les missionnaires portugais, les voyageurs et tout, le récit de voyage... sur les Indiens de la côte brésilienne.
Ça, c'est Jean de Léry, c'est le XVIe siècle. Hein.
Oui, voilà. Il connaissait toute sa littérature qui a été faite, qui a été écrite au XVIe siècle. Et aussi, il a été très, happé par le célèbre essai de Montaigne, des cannibales, qui, d'ailleurs, raconte une histoire d'une rencontre réelle entre Montaigne et... trois Tupinambas qui étaient venus en France, amenés en France par le Français qui était au Brésil.
Et juste rapidement, dans cette rencontre, en tout cas dans ses essais, Montaigne rapporte cette rencontre avec des cannibales et il semble au début se faire le porte-parole de l'indignation, du scandale que peut provoquer le cannibalisme, pour finalement en tirer la conclusion que les guerres de religion qui déchirent la France à ce moment-là sont beaucoup plus barbares.
Exactement.
Que les cannibales qui, eux, ne mangent que leur ennemi, oui. Et une fois qu'ils sont morts.
Oui, et il dit, je me trompe pas, il dit, au moins là-bas, ils ne mangent pas vivants.
C'est ça, exactement.
Ils attendent qu'ils soient morts pour le manger ou quelque chose comme ça. Et Oswald a été très, il avait une culture francophone, francophile très forte, comme toute la classe aisée brésilienne, surtout au début du siècle, du XXe siècle. Et alors, toutes ces influences-là ont amené Oswald de Andrade à écrire un texte qui était en fait un manifeste dans le style de manifeste de l'époque, manifeste réaliste et tout. C'était l'époque des manifestes, le modernisme, quoi. Et un manifeste où c'était pas un manifeste sur le Brésil, c'était pas une théorie du Brésil, c'était une théorie anthropologique, c'est-à-dire esthétique, éthique et métaphysique en fait, sur la condition ontologique du monde, et que l'idée c'était que l'anthropophagie était la loi universelle, c'est ça son idée.
Quelle est la différence entre l'anthropophagie et le cannibalisme?
C'est technique, mais anthropophagie, techniquement, ça veut dire manger de l'homme, manger de l'humain. Donc, les jaguars sont anthropophages.
Alors, cannibalisme, c'est manger sa propre espèce.
Voilà, cannibalisme, c'est ce que le grec appelait l'allélophagie, c'est-à-dire manger sa propre espèce. Et donc, les anthropophages humains sont cannibales. Mais
ce sont les seuls.
Ils sont les seuls.
Donc le manifeste anthropophage est une manière de dresser un diagnostic du monde en 1928.
Le manifeste anthropophage, en plus de dire l'anthropophagie, c'est la vérité anthropologique universelle, le devenir du cosmos, c'est la dévoration. Il dit la dévoration, c'est l'être. C'est une association entre l'être et la dévoration. L'être, c'est la dévoration, c'est ce qu'il écrit. La dévoration pure. Et alors, il a aussi une autre idée, c'est un manifeste fait de l'aphorisme, comme tout manifeste. Ensuite, il écrit, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas à moi. On peut interpréter ça, évidemment, de deux façons différentes. Soit comme une sorte de credo hyper capitaliste, je vais tout accaparer, je vais tout pour moi, je vais agrandir mon capital ontologique. La seule chose qui m'intéresse, c'est les choses que je n'ai pas encore acquis. Mm-hmm. Mais on peut aussi interpréter ça, et c'est évidemment le sens que voulait Oswald de Andrade, dans le sens exactement opposé. La seule chose qui m'intéresse, c'est justement c'est ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire ce qui n'est pas à moi, c'est l'autre. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'autre. Et son idée, c'est que l'anthropophagie, c'était en fait une sorte de démonstration métaphysique de respect pour l'altérité. C'était son idée. Et que donc, au centre de l'anthropophagie, était effectivement l'idée que la valeur, en général, la valeur avec un V majuscule, réside chez l'autre. Et l'anthropophagie, c'était une façon, disons, de s'approprier cette valeur, s'identifier à cette valeur, devenir l'autre. C'était moins absorber l'autre en soi que de se laisser capturer par l'altérité en tant que telle. Et ça, c'était son idée. Qu'il a déduit, si on peut dire, des matériaux du XVIe siècle d'une façon très, très, osé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il a quasiment inventé ça, sauf qu'il l'a inventé dans le bon sens, il avait raison.
Avant d'en arriver à votre métaphysique cannibale, Eduardo Viveiros de Castro, si on s'approche de votre oreille ou de votre cœur, on peut entendre ceci.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil. Que sommes-nous en train d'écouter, Lardo Villaros de Castro?
Oui, c'est une musique très, très émouvante qui a été écrite par Chico Buarque de Holanda et Gilberto Gil. C'est Milton Nascimento qui chante, je crois.
Oui, c'est, oui.
Et qui, c'est une musique qui joue sur un, cet enjeu de mots, entre les mots calice, et ça commence avec la, la célèbre phrase de Christ sur la croix, Père, loin de moi ce calice. Mais c'est un jeu de mots parce que calice en portugais c'est aussi tais-toi. Ça veut dire tais-toi si on sépare les mots avec un trait d'union. Calar, c'est fermer la bouche, c'est taiser. Et tais-toi. Donc c'était en fait une protestation contre la censure. C'était une musique.
En 1973, hein, cette chanson a été écrite et elle n'a pu être enregistrée qu'en 78.
Voilà. Et elle parlait contre la dictature et associait la dictature, évidemment, à une situation de. Non seulement de. Que les gens ne pouvaient pas parler, mais parlait aussi de donner à ça un sens apocalyptique, un sens sinistre. Parce qu'il liait ça à une phrase du Christ qui est une phrase particulièrement terrible.
De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado.
Calizado.
Quero inventar o meu próprio pecado.
Calizado.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Calizado.
Quero perder de vez tua cabeça.
Calizado.
Minha cabeça perder teu juízo.
Calizado.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel.
Calizado.
Me embriagar até que alguém me esqueça.
Calizado.
Faut-il comprendre votre intérêt pour le cannibalisme? Et votre le choc qu'a pu provoquer en vous le manifeste anthropophage d'Oswald Andrade dont on parlait avant, comme étant aussi un contre-coup du climat extrêmement violent dans lequel vous viviez à ce moment-là. Vous disiez, quand je vais rencontrer les Indiens, c'était aussi une manière de quitter le Brésil parce que j'allais tellement loin dans ces forêts que j'étais plus vraiment en ville. Finalement, la réflexion autour anthropologique autour du cannibalisme n'est-elle pas aussi une manière de transformer cette violence que vous subissiez, d'y réfléchir?
Bonne question, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement comme ça que ça s'est passé. Parce qu'en fait, quand je suis parti, ça c'était mon dernier terrain, j'ai fait 4 ou 5, j'ai visité 4 ou 5 groupes différents au Brésil. Avant de me fixer chez les Arawetek, qui était un groupe qui parlait la même langue que les Indiens du XVIe siècle, qui étaient à Rio de Janeiro. Donc, qui parlait la même langue que les gens qui étaient 5 siècles avant, objets, rapports des gens de l'Eri et tout ça. Et même langue, c'est-à-dire une langue proche, une langue aussi proche que, disons, le français du latin, le portugais du latin, donc avec une grammaire faite dans le XVIe siècle par les missionnaires jésuites, on pouvait quand même apprendre beaucoup plus vite la langue parlée par les Arawetek, qui était monolingue à l'époque, donc il fallait apprendre la langue. J'avais pas un intérêt spécial pour le cannibalisme ethnologique, au sens de phénomène réel, quand je suis parti chez les Arawetek. Bon, j'avais déjà écrit à cette époque-là des choses sur des sujets complètement différents. Et l'Oswald Andage n'était pas dans le premier plan de ma conscience, disons, quand je suis parti chez les Arbeiter. C'est quelque chose qui faisait partie de ma formation, de ma sensibilité en général. Alors c'était une coïncidence, le fait que les Arbeiter avaient le thème du cannibalisme était important pour eux. Tout en n'étant pas cannibale, tout en n'étant pas anthropophage, au sens que les Topinambas du XVIe siècle l'étaient, ils réservaient au cannibalisme une place très importante dans leur cosmologie, puisque les divinités célestes des Arbeiter sont censées manger les morts, dévorer les morts, avant de les transformer en divinités eux-mêmes. C'est-à-dire que les morts arrivent aussi dans le ciel, l'esprit des morts arrive dans le ciel, l'esprit, enfin... parce qu'ils sont dévorés, c'est-à-dire la partie des personnes des morts qui monte au ciel est attaquée, dévorée par les dieux. Les dieux sont des ennemis, sont considérés comme des ennemis. Des ennemis en même temps qui transforment leur proie, c'est-à-dire les morts, en eux-mêmes. Donc, et sont ennemis, mais en même temps sont une sorte d'idéal de personnes des Arbeiter, c'est-à-dire les dieux sont... Ce sont dieux, quoi. Ce sont des gens, une espèce de super Arbeiter. Et en même temps, sont appelés ennemis par les Arbeiter.
Parce qu'ils mangent leur mort.
Parce qu'ils mangent leur mort. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose là qui ressemble quand même au cannibalisme guerrier, sociologique, réel, des Topinambas du XVIe siècle. Sauf que c'est comme si les Topinambas avaient monté au ciel. Parce qu'ils ont disparu quand même. C'est comme si la mémoire du cannibalisme guerrier du XVIe siècle avait été sublimée, transformée dans un cannibalisme divin, céleste, posthume, et que les humains sont les ennemis qui étaient mangés par les Topinambas. Et les dieux sont les Topinambas. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'inversion et un double déplacement vers les hauts, un déplacement aussi temporel, parce que c'était posthume, et ensuite un déplacement des positions perspectives, parce que, en fait, l'ennemi, c'est en fait le jeu, et les jeux, c'est en fait, parce que le vrai Arbeiter au ciel, c'est le dieu. Et les morts sont en fait les ennemis des Arbeiter célestes, qui sont les dieux. Et donc, c'est comme ils achètent une sorte d'inversion, où les Arbeiter se pensaient comme des proies de dieux, et en même temps se pensait comme étant de futurs dieux, puisque les morts vont être dévorés pour ensuite être transsubstantiés dans la position divine. Et il dit, tiens, ça c'est en fait une transformation structurelle au sens lévi-straussien du terme, du cannibalisme guerrier Topinambas. Donc c'est comme ça que le thème du cannibalisme a passé entré dans mon horizon. C'était parce que j'ai vu un rapport entre les matériaux ethnographiques historiques du XVIe siècle et les matériaux ethnographiques contemporains du groupe avec lequel j'étais en train de travailler.
Alors comment ça se passe justement, travailler avec ce groupe-là, les Arawete en l'occurrence? Vous vivez avec eux pendant plusieurs mois et puis vous retournez dans votre bureau pour étudier les notes. Comment ça se passe?
Oh, j'ai travaillé, la partie principale de mon terrain s'est faite en 12 mois. En 12 mois, dans les années 80, je passais 4-5 mois ensuite de suivi dans le village. Ensuite, je sortais pour une semaine pour m'approvisionner dans la ville qui était à 200 km de là. Ensuite, je revenais. Donc, je passais un an chez les Arawetais avec de petits intervalles.
Et ils vous acceptaient, eux?
Oui, ils étaient, à l'époque où je suis arrivé chez les Arbeiter, ils n'avaient que 5 ans de contact avec les Blancs.
5 ans?
5 ans. Donc, ils avaient souffert, ils étaient encore sous les coups de la catastrophe démographique qui arrive toujours quand l'État brésilien ou autre fait le premier contact avec un groupe isolé. Parce que c'est les chocs épidémiologiques.
Ah oui.
Ils avaient perdu quelque chose comme 50% de la population en 4 mois. Quelque chose comme ça.
Après avoir été en contact avec les Blancs pour la première fois.
Voilà, les premiers contacts ont produit une catastrophe démographique. Quand je suis arrivé, ils étaient encore en train de se récupérer de récupérer, enfin de se récupérer psychologiquement et démographiquement aussi. Ils étaient 135 personnes. Quand je suis arrivé maintenant, ils sont 600. Donc, après 40 ans.
Et donc, ils vous ont quand même accepté, malgré la peur de reproduire.
Oui, sauf que ils n'étaient pas, comment dire, à cette époque-là, ils étaient déjà, comment dire, en état épidémiologique équilibré. Donc, ils étaient déjà, ils avaient été vaccinés après la catastrophe, après coup, quoi. Et ils étaient sous l'administration du bureau d'affaires indigènes brésiliens. Et ils vivaient dans un seul village, maintenant, ils vivent dans 7 villages, dans le même territoire. Et ils m'ont accepté parce que ils sont complètement, comment dire, ouverts à l'autre, justement.
Et donc, mais ça va pas de soi. Si on me disait, quelqu'un va te suivre dans tes déplacements, ton travail, pendant un an, tous les jours, je poserais des questions.
Vous savez, moi, j'ai toujours eu un problème avec ma propre profession. Parce que je trouve la profession d'anthropologue, ceux qui font de terrain, une profession très, très difficile parce que elle est basée sur la technique, c'est de, comment dire, gêner les autres. Tu vois? Entrer dans la maison des autres et y rester en posant des questions idiotes, hein, en se comportant comme un débile, puisqu'on ne sait rien faire de la vie, pour la vie quotidienne, chasser, planter, machin. Donc, c'est une sorte d'idiote professionnel, d'anthropologue, qui va là-bas et ensuite, il espère qu'au bout d'un certain temps, un an, deux ans, trois ans, qu'il sorte un peu moins idiot de cette chose-là. Et en même temps, il fait confiance que les Indiens auront suffisamment de patience pour l'accepter en tant qu'un idiot et qui ont la patience de l'enseigner, de l'apprendre un peu.
Et pourquoi eux le font-ils? Quelle est leur contrepartie ou le gain? Je pense qu'il
y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a une sorte de curiosité anthropologique fondamentale de la part des Indiens. Ils sont très, surtout s'ils avaient, comme ils avaient que 5 ans de contact, donc ils étaient très, très curieux vis-à-vis de tout ce qui relevait du monde des Blancs. Donc, ils faisaient l'anthropologie de moi. Donc, ils voulaient savoir comment on faisait les choses.
Oui, vous posiez autant de questions sans doute que
justement,
vous la posiez.
Justement. L'autre raison, c'est, et c'est la raison moins, comment dire, moins facile à admettre, c'est qu'évidemment, il y a un rapport de pouvoir. Ils pouvaient évidemment me refuser mon séjour là-bas. Mais en même temps, je venais du groupe de la tribu des puissants, les Blancs. Donc, c'est quelqu'un avec qui ils devraient quand même aménager des relations.
C'était dans leur intérêt.
Oui, c'était un truc diplomatique. Non pas, parce qu'ils avaient tout le droit et même ils avaient tous les pouvoirs de dire non. Partez, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas de vous ici. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que je pense que la curiosité était plus grande. Et aussi, il y avait, c'est pas du tout négligeable, un intérêt pour les biens matériels que j'étais à même de porter au village.
Qu'est-ce que vous apportiez?
Ah, des choses qu'il convoitait, du genre, surtout des outils d'en fer, des haches de couteaux, des choses comme ça. Ce sont des gens qui travaillent avec pour lesquels ces choses-là signifient une économie de temps absolument incompréhensible aussi.
Donc c'est un échange d'intérêts bien compris en fait, le travail de l'anthropologue.
Oui, non, il m'acceptait parce que j'étais un oiseau rare, un idiot savant, puisque tout en étant idiot, j'avais avec moi des objets merveilleux. Et une chose d'ailleurs qu'ils m'ont demandé, une des premières fois que j'ai commencé à comprendre leur langue, ils m'ont regardé mes habits, ma caméra, mon stylo, mon carnet. Ils disent, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Qui a fait ça? C'est-à-dire ma chemise. Ils disent, je sais pas. Et cette caméra-là, j'ai aucune idée. Et ces stylos, non plus. Elle dit, mais est-ce que tu n'as rien fait?
Oui.
Hein? Tu ne sais rien faire? Et je dis, oui, c'est vrai, je ne sais rien faire, à part écrire. Hein? Et alors, d'accord. Et ils ont dit, oh, ce type.
Oui, c'est ça. Mais vous aviez du goût pour ce travail de terrain, ou est-ce que c'est comme Lévi-Strauss qui dit cette fameuse phrase, je hais les voyages et les explorateurs, pour qui le terrain était quelque chose qui lui coûtait énormément?
J'étais, disons, à mi-chemin entre Lévi-Strauss et les gens qui aiment le terrain. Disons, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime le terrain pour le terrain, comme qui aime la vie sauvage, la vie en plein air, le grand dehors. Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, tout en acceptant le petite misère de la vie sans le confort moderne, je ne suis pas un admirateur de la vie naturelle, entre guillemets. Si je puis, je préfère une douche chaude que l'eau glacée d'une fleuve le petit matin, quoi. Mais, en même temps, ce n'est pas quelque chose qui me fait fuir. Et surtout parce que je pense que mon intérêt pour les Indiens, la pensée indigène, le mode de vie, l'humeur, l'humour surtout des Indiens, et plus que qu'on pense toutes ces petites choses. Ceci dit, je répète, je ne suis pas ni comme Lévi-Strauss, mais non plus comme des gens qui sont capables de passer 5 ans, 6 ans dans la brousse et qui trouvent ça absolument formidable.
Il nous reste très peu de temps, l'heure tourne, je serais bien restée en Amazonie avec vous, mais je voudrais quand même vous poser une question avant de rendre l'antenne. Quel rôle est-ce que vous vous attribuez en tant qu'intellectuel, en tant qu'anthropologue, qui en plus a été en contact avec un type de société que nous autres ne connaissons pas? Est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité, un engagement politique à jouer?
Absolument. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, non seulement le droit à l'existence des peuples, des sociétés qui ont resté dehors le cercle infernal de la tradition occidentale chrétienne capitaliste, c'est un droit de l'existence qui doit être affirmé et défendu. Surtout parce qu'on assiste maintenant au Brésil, plus qu'ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs, mais pas, ce n'est pas qu'au Brésil, à une sorte d'attaque, d'offensive systématique pour finir avec cette population, parce qu'on convoite leur terre, on convoite les ressources qui se trouvent dans leur territoire, et en plus, parce qu'on, en fait, au fond, on ne tolère pas l'existence des gens qui ont une conception de la bonne vie qui soit différente de la nôtre.
Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Bon, d'abord, diffuser autant que possible la richesse et l'originalité de l'imagination conceptuelle de ce peuple. Ensuite, montrer que les conséquences sur l'environnement, sur le monde, de ces façons de penser et de vivre, sont des conséquences infiniment moins destructives de nos conditions matérielles d'existence que notre présente façon de vivre. Donc, ça veut dire diffuser l'imagination, montrer que, conceptuel des Indiens, montrer que les implications concrètes de leur mode de vie sont des implications qui permettent d'imaginer une autre façon de vivre sur Terre, dans notre planète, qui n'amène pas à la destruction de la planète. Et bon, je pense que ça suffit comme raison pour défendre. Et surtout, je pense, ils n'ont pas besoin, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que les Indiens ont des idées ou des connaissances que nous avons besoin pour leur défendre.
Oui.
Il faut le défendre parce qu'ils existent.
C'est ça, pas besoin d'arguments rationnels.
Oui, il n'y a pas besoin d'arguments. Ce n'est pas parce qu'ils sont utiles à nous qu'ils doivent exister. Ils doivent exister parce qu'ils existent. Et ça suffit, hein, pour moi.
Merci beaucoup Eduardo Viveiros de Castro d'être venu au micro des chemins ce matin. Je vous laisse partir car on vous retrouve dans 1h30 à 12h30. Vous participez au colloque organisé au collège des Bernardins, 20 rue de Poissy dans le 5e à Paris. On mettra toutes les informations. Le colloque s'intitule « Gaïa face à la théologie, l'enjeu religieux de la mutation climatique ». C'est le dernier jour aujourd'hui, 7 février. Donc dans 1h30 à 12h30, on pourra vous entendre autour de la question suivante, eschatologisation de l'immanence, l'Amazonie comme terre promise, et ensuite une intervention de Cynthia Fleury, une conclusion à 17h avec Bruno Latour, Frédéric Louzeau et Camille Riquet. Un grand merci à vous. On se quitte avec une autre chanson que vous aviez choisie, Caetano Veloso.
Un Indien.
Buen dia.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi, c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
En prévision du 14 février et de la Saint-Valentin, c'est tout naturellement que j'aimerais aujourd'hui vous parler d'amour. Comme partout, l'amour a une grande place dans le développement personnel. Mis à toutes les sauces et enrobé au besoin par des citations de philosophes, au point de laisser penser que ceux-là sont tout droit sortis d'un courrier du cœur. Pourquoi pas d'ailleurs, j'adorerais que des philosophes éclairent mes peines de cœur. Mais que faire quand on ne retient par exemple de Platon que cette phrase
« Chacun cherche sa moitié ».
En référence bien sûr au discours d'Aristophane dans Le Banquet ou de Camus
« Je ne connais qu'un seul devoir ». C'est celui d'aimer.
Et oui, dit comme ça, ça n'est pas très éclairant. Pourtant, à lire ou à écouter les coachs, l'amour mériterait justement quelques lumières, quelques connaissances et astuces pour prendre et durer. On devrait même, paraît-il,
apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Et apprendre à vivre.
Alors oui, je sais, c'est très facile. Dès que l'on prononce ces trois mots, apprendre à aimer, c'est bien sûr cette chanson qui nous vient en tête. On l'a tous entendu, aimer ou détester, mais l'a-t-on vraiment écouté, interrogé ? On croit que ce qui s'y dit est évident. Mais est-ce si évident ? Avez-vous appris à aimer, vous, où et quand? J'aimerais bien savoir quel cours avez-vous suivi. Si j'y pense vraiment, je crois que la chanson de Florent Pagny m'a en fait toujours laissé perplexe. C'était peut-être d'ailleurs voulu de sa part. Peut-être a-t-il voulu attirer l'attention sur cet amour qui n'a rien d'évident. Mais pourquoi? Pourquoi l'amour ne serait-il plus une chose évidente? J'aime mes parents, par exemple. Je ne l'ai pas appris, ou alors sans le savoir. Pareil pour ma fille ou mes amis. Pour moi, l'amour, ça ne s'explique pas, ça s'impose. Pourquoi serait-il désormais une question d'apprentissage ou de savoir? N'est-il plus suffisant de dire, comme Lara Fabian, « Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. » Le développement personnel mise bien sûr sur l'idée que l'amour doit s'apprendre, sinon il n'aurait plus lieu d'être. Mais il faut se poser la question vraiment, si l'on ne peut plus se contenter de l'amour qui vient puis disparaît, qui s'impose, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire apprendre à aimer? À mon sens, cette injonction recouvre trois présupposés. D'abord, l'idée que l'amour ne serait pas abouti à l'état naturel. On serait ici dans une vision hobbesienne de Hobbes, du philosophe Hobbes des rapports humains, où ce qui nous définit serait d'abord l'égoïsme et non l'amour. Ensuite, il y a cette idée que l'amour doit être appris car il serait de nos jours perdu. Ce serait ici la critique anti-moderne. L'amour, comme tout, eh bien c'était mieux avant. On s'aimait plus et de manière désintéressée. Et puis enfin, il y a l'idée que l'amour doit s'apprendre au risque sinon d'aimer mal, trop vite, de manière trop individualiste, trop superficielle et trop fragile. C'est ici la critique qu'on pourrait trouver, je dirais, chez un Guy Debord ou un Jean Baudrillard, rejetant notre société d'image et de consommation. Art d'aimer, idéal à atteindre, objet à rebours de ce qui fait notre époque, l'amour qui s'apprend est le contraire de la passion qui s'impose. C'est la vertu intemporelle qui se réfléchit et s'éprouve, c'est-à-dire de ce que l'on met à l'épreuve.
En fait, on va s'apercevoir qu'effectivement, l'amour, c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça et dont on est frappé. Alors, je parle pas de tomber amoureux, parce que ça, c'est vrai. Parfois, il y a une attirance physique, sensuelle, sexuelle. Et du coup, on ressent beaucoup d'amour. Mais on peut s'apercevoir qu'après cette attirance, une fois que cette attirance elle s'est installée, bah, que l'amour ne survit pas toujours. Okay. Et puis, c'est pas simplement l'amour entre deux êtres dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est de l'amour en règle générale. Ce que je vais vous dire, je veux que ça puisse vous servir dans quasiment tous vos domaines de vie.
Au fond, l'amour qui s'apprend correspond à la définition très classique comme vertu que pourrait en donner Aristote lui-même. Et j'ose le dire, je ne crois pas être d'accord avec lui. Je ne crois pas que l'amour soit une vertu, une disposition de l'âme qui se cultive et permette de fabriquer, d'améliorer, de rendre une relation durable. Fabriquer, améliorer, rendre durable, on dirait qu'il est question d'électroménager. Mais je ne crois pas non plus que l'amour ne soit que passion, spontanéité, mystère. Au fond, le problème de cette idée d'apprendre à aimer, c'est qu'elle ne fait que reconduire l'éternelle alternative entre l'amour-passion et l'amour-vertu. Or, l'amour n'est souvent ni l'un ni l'autre. Et le drame est là. C'est dur d'admettre que l'amour n'est ni fou ni raisonnable. C'est dur d'admettre que l'amour n'est pas un cliché.
Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine pour vous, avec à la prise de son aujourd'hui Pascal Baudin. On vous retrouve lundi prochain, Géraldine, pour une série spéciale autour du philosophe Gramsci.
Antonio Gramsci, oui, on va s'intéresser à ses concepts d'hégémonie, de crise, de sens commun, et bien sûr à toutes les lectures qui ont été faites, bonnes ou mauvaises, de ces grands concepts chez les hommes politiques.
Eh bien, on a hâte. Ce sera donc vous aux commandes des Chemins de la Philosophie la semaine prochaine. D'ici là, ce week-end, profitez-en pour réécouter les anciens numéros des Chemins. Vous pouvez les réécouter en ligne ou bien les podcaster, les télécharger afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous attendons vos remarques et vos commentaires. À lundi donc, vous serez là, Géraldine, vous aussi j'espère, chers auditeurs. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.